Nous allons aussi, bien sûr, partager la parole à partir de la pensée de l'année que je vous ai distribuée. À la veillée, hein, et puis j'ai envoyé aussi par mail maintenant cette petite carte. Dites à vos frères, amis, mon peuple, et à vos sœurs, Rukama ou Ruama dans les traductions plus modernes, miséricorde, c'est-à-dire celle qui a obtenu miséricorde. Prophète Osée, chapitre 2, verset 3. Alors, placer l'année sous l'autorité d'une parole donnée anciennement par le prophète Osée au peuple d'Israël, eh bien, c'est s'apprêter à voir le Seigneur, l'auteur de notre salut, poursuivre son œuvre d'évangélisation du monde et de formation de son Église. Et en fait, cette parole nous permet de réviser en quelque sorte tout l'évangile. C'est vraiment l'évangile qui est annoncé par cette parole au prophète Osée et plus généralement par le prophète Osée qui commence très difficilement mais dont le fond est vraiment celui du message de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Et depuis 2000 ans, les nations sont au bénéfice du jugement prononcé sur Israël. Car il s'agit bien de cela ici, et combien nous devons comprendre ce jugement à la lumière de l'enseignement des apôtres du Seigneur. Car du jugement sort la miséricorde. Et comme il est écrit dans l'apôtre Jacques, la miséricorde triomphe du jugement. Eh bien, si vous avez reçu cela, vous avez tout reçu. Comprenons bien qu'avant de faire miséricorde, Dieu ne fait pas semblant d'exercer le jugement. Il juge véritablement. L'évangile, ce n'est pas, et les prophètes et l'évangile, ce n'est pas une comédie pour laisser entendre qu'à la fin, tout est bien, tout se termine bien, tout est beau dans le meilleur des mondes. Non! Il y a un réel jugement de Dieu sur la nation pécheresse. Et alors peut se manifester la miséricorde du Seigneur. Vous connaissez peut-être la différence entre le Père Noël et la Saint-Nicolas. La différence, alors c'est la tradition religieuse, hein, c'est que le Saint-Nicolas était flanqué du Père Fouettard. Ils étaient les deux à l'œuvre. Le Père Noël est seul et il dispense ses cadeaux sans discrimination, sans exigence, sans demande quelconque, d'humiliation de la part de celui qui reçoit le cadeau. Et c'est cette vision, en quelque sorte, de Dieu qui s'est imposée par la modernité. Le Père Noël a remplacé, et ce n'est pas pour rien sur le plan religieux, le Saint-Nicolas et le Père Fouettard qui existait dans la tradition. Les catholiques n'étaient pas du tout d'accord avec le Père Noël, initialement. Ils refusaient le Père Noël. Ils ont même brûlé des effigies du Père Noël. parce qu'il allait à l'encontre de ce qui était inscrit dans la conscience religieuse. La modernité a du mal avec le jugement. Elle fait abstraction du jugement. Il n'y a plus de jugement. J'entendais hier une interview par une journaliste, donc, sur une antenne de grande écoute de radio, d'un professeur qui a écrit un livre pour avertir un peu des dangers actuels sur la manière de concevoir la grossesse et la conception artificielle, etc. Pourtant, un homme qui a pourtant contribué à désacraliser en quelque sorte la vie de l'embryon, mais qui réalise quand même que là, on est en train d'aller un peu trop loin dans des expériences et des exigences, en fait, et qui essaye d'avertir quand même un petit peu quoi, sur ce qui est en train d'arriver. Mais la manière dont la journaliste l'interroge, on sent, on entend derrière ces questions, oui, mais pourquoi est-ce que ceux qui veulent ne pourraient pas obtenir ce qu'ils veulent? Alors, très diplomatiquement, ce professeur essaye de dire, oui, mais quand même, on n'a pas tout ce qu'on veut toujours. On est obligé d'accepter des limites. Mais on sent bien que la mentalité de la personne qui l'interroge est formée à ce qu'il n'y ait pas de limites. Parce qu'il n'y a pas, il ne doit pas y avoir de jugement. Et que donc tout le monde doit pouvoir obtenir ce qu'il désire. Le Seigneur, par l'expérience de son peuple, déclare qu'il y a un jugement. Il exerce un jugement. Il a donné une loi, d'ailleurs, pour pouvoir exercer le jugement en toute légalité. Faire comprendre où le péché des hommes les amène. Donc, si nous parlons de miséricorde, nous parlons aussi de jugement. La prophétie commence par un jugement sur les chefs, par le rejet de la lignée de Jéhu, par un jugement aussi sévère que le massacre perpétré par Jéhu anciennement à Jisréel lors de sa conquête du pouvoir. Si vous reprenez les références donc qui sont données au sujet de Jisréel, c'est le massacre des 70 fils du roi Akab par Jéhu pour prendre le pouvoir sur Israël. Et le Seigneur dit dans Osée, vous l'avez lu, qu'il va faire rendre compte maintenant de ce massacre, en fait. C'était très ancien, mais toute la lignée de Jéhu, finalement, a continué et finalement a progressé dans le mal. Et maintenant, c'est le temps que ces chefs du peuple d'Israël soient jugés. Et le Seigneur, donc, carrément annonce un rejet de cette lignée de Jéhu pour diriger son peuple. Deuxièmement, il annonce, le prophète donc annonce que Le Seigneur détourne son amour de la nation pécheresse. Et troisièmement, il déclare finalement que l'Éternel renie son peuple. C'est le premier chapitre avec les enfants de prostitution qui naissent et qui s'appellent le premier Jisréel, le second Lo Rukama et la seconde, c'est une fille, et le troisième Lo Ami, c'est-à-dire celle dont on n'a pas pitié et celui qui n'est pas mon peuple. C'est le jugement qui tombe là par le prophète Osée. Et suite à ce jugement, intervient une annonce, alors que le Seigneur vient d'établir que il n'a plus de peuple, mais intervient une annonce, il y aura pourtant un peuple nombreux pour Dieu, un peuple à qui Dieu aura fait miséricorde et qui aura un nouveau chef. On passe donc par-dessus le jugement pour que soit révélée la miséricorde de Dieu. Dieu fait miséricorde et il se constitue un peuple sur la base de sa miséricorde. C'est le début du chapitre 2. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer qui ne peut ni se mesurer ni se compter. Et au lieu de dire « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira « Fils du Dieu vivant ». Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront, se donneront un chef et sortiront du pays, car grande sera la journée de Jisréel. Dites à vos frères, Ammi, et à vos sœurs, Rukama, mon peuple, et je te fais miséricorde. Après, interviennent à nouveau les paroles de jugement. Et puis, finalement, la fin du chapitre 2, à partir du verset 21. « Je serai ton fiancé pour toujours, je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile, ils exauceront Jisréel. Je planterai pour moi Lo Rukama dans le pays et je lui ferai miséricorde. Je dirai à Lo Ami, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. » Et les apôtres déduiront de ce passage du prophète Osée l'évangélisation des nations, la grâce faite aux païens. C'est pourquoi à cette pensée se sont ajoutées les références de Romains, Pierre, Tite, que je vais vous lire maintenant. Car c'est cela que le Seigneur prévoyait d'avance en parlant au prophète Osée. Je vous lis Romains chapitre 9, versets 25 et 26. Et en fait, quand on lit l'ensemble de l'épître, on voit que les chapitres 9 à 11 de l'Épître aux Romains font le pendant au chapitre 1 à 3 du prophète Osée. Et annonce l'œuvre de la grâce de Dieu envers un reste d'Israël comme envers les nations païennes. Chapitre 9, donc versets 25 à 26. Je prends en partie le verset 24. « Ainsi il nous a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. » Et là où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés « fils du Dieu vivant ». Et tous les chapitres 9 à 11 sont dans la même veine. Pierre, bien sûr, l'apôtre Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10. En fait, si on remonte, là aussi c'est la même chose, à partir du verset 7, « L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui baptisaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Israël, qui n'a pas cru, a été écarté. Du moins, l'Israël qui n'a pas cru a été écarté, mais dans Israël, ceux qui ont cru sont devenus justement le reste et sont devenus le vrai peuple de Dieu. Mais tous ceux qui n'étaient pas d'Israël et qui ont cru ont obtenu miséricorde et sont devenus le peuple de Dieu et reçoivent également le sacerdoce. Ils deviennent une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Racheté, acquis par le Seigneur. Tite, chapitre 2, versets 13 et 14. Et bien sûr, je vais remonter au verset 11, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Voilà le résultat de l'action miséricordieuse du Seigneur au sein de ce monde par le don de son Fils Jésus-Christ. Voilà l'Évangile. Évangile à prêcher, dit l'apôtre, d'abord aux Juifs et puis ensuite aux païens. Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. Le Juif est appelé à se détourner de la justification par ses œuvres, par les œuvres de la loi, pour se confier dans la miséricorde de Dieu. Et s'il le fait, alors toutes les promesses des prophètes et de Osée en particulier lui reviennent. Premièrement, il peut être sauvé par la miséricorde de Dieu. Il peut constituer le vrai peuple de Dieu en croyant en la grâce qui lui a été faite par le sacrifice de Christ à la croix. Mais cette grâce n'est pas seulement pour lui, elle est aussi pour les païens qui, par la simple foi en Jésus-Christ, deviennent également le peuple de Dieu. Et juifs et païens convertis au Seigneur forment le véritable Israël, celui qui vit de la miséricorde du Seigneur, celui qui vit par le pardon des péchés qui ont été jugés dans le Seigneur qui était sur la croix. Voilà le message du prophète Osée. Alors il y a une correction d'interprétation que je voudrais vous apporter, parce que moi j'avais mal lu le texte de Osée, et en lisant les commentaires, j'ai compris, j'ai dit, ah oui, d'accord. Faut faire attention de ne pas avoir une lecture trop superficielle du prophète Osée, en particulier au chapitre 3, parce que il pose un vrai problème à certaines consciences, puisque dès le départ, Dieu demande au prophète de prendre une femme prostituée. Alors ça, c'est quand même quelque chose de difficile à comprendre, mais en fait, on le comprend par rapport à l'analogie que le Seigneur veut faire par rapport à ce peuple, cette épouse qu'il a et qui finalement s'est prostituée aux dieux étrangers, hein, et s'est développée dans tout le texte. Mais au chapitre 3, il y a quelque chose qui intervient et je comprenais mal. L'Éternel me dit, va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère, aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël qui se tournent vers d'autres dieux, etc. Et bien moi, tout naturellement, je ne sais pas comment vous l'avez lu, mais je comprenais, j'ai dit quand même, c'est un peu dur, quoi, parce que le Seigneur demande au prophète de prendre une deuxième femme prostituée. Une femme adultère, il a pris déjà une première femme, il doit prendre une deuxième. Ça me posait quand même un problème, quoi. Mais en fait, tous les exégètes, les commentateurs comprennent que c'est pas une autre femme dont il est question. C'est la même. C'est la même femme que le prophète doit aller rechercher. Mais comme elle a été désavouée dans les premiers chapitres, là, qu'elle a été rejetée, finalement, elle s'est certainement vendue, en fait, comme esclave. Elle est devenue esclave d'un autre homme. Et le prophète est chargé de la reprendre en la rachetant. Il doit l'acheter, je l'achetais. Donc, intervient ici la notion de rachat, qui est présente dans d'autres textes, bien sûr, de l'Ancien Testament, pour que cette femme qui n'a plus l'espoir du tout d'être l'épouse du Seigneur, en fait, puisse le redevenir. Voilà, alors tous les détails du texte sont à examiner, l'ensemble de la prophétie, mais en tout cas, il faut bien comprendre cela, à cet endroit-là de la lecture, qu'il ne s'agit pas d'une autre femme, mais de la même qui est rachetée. Et c'est très important parce que s'il s'agissait vraiment d'une autre femme, eh bien, ça indiquerait le rejet définitif d'Israël. La nation d'Israël n'aurait plus rien à voir avec le plan de grâce du Seigneur, ce que dément l'apôtre Paul, justement, dans ce chapitre 9 à 11 du prophète de Romains, où il est bien question, finalement, de la réintégration du reste d'Israël, et que c'est Israël, le reste d'Israël, plus les païens qui forment l'Israël de Dieu. Donc, la première Israël a bien la possibilité d'être rachetée, réintégrée à l'épouse véritable du Seigneur. Donc, voilà, à force de pénétrer plus avant dans le texte, on finit par mieux comprendre. Hein, et il y a bien d'autres choses encore à comprendre. Donc nous sommes au bénéfice de la miséricorde du Seigneur. Et en fait, pour être le peuple de Dieu, il faut vraiment être sur cette base pour former le peuple de Dieu. L'Église, nous ne sommes, on le dit et il faut le dire, c'est le message permanent à transmettre. Ne se constitue pas à partir de notre propre justice, mais à partir de la grâce que Dieu nous a faite. Nous sommes tous tirés de notre péché, lavés, purifiés, rachetés par le sang de Christ pour former l'épouse. Et nous sommes ainsi fiancés à Christ pour la vie, voilà, pour entrer dans la vie éternelle, dans la communion parfaite du Seigneur. Et ça ne doit pas être une autre base que celle-là pour nous former une Église qui glorifie le Seigneur. Juste quelques mots sur la notion de fiançailles, parce que le Seigneur dit à cette femme, tu seras ma fiancée, je serai ton fiancé. Et retrouver, parce que c'est la même chose que ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'évolution des mentalités concernant voilà, le Père Noël, etc. Le monde moderne a évolué également avec la volonté de consommation immédiate du désir, de ce qui se présente au cœur de l'homme lorsqu'il désire quelque chose. Et de fait, maintenant, l'homme et la femme, et autrement encore, ne se marient plus, ne se fiancent plus, mais se mettent ensemble, vivent une relation sexuelle, etc., et puis conjugale, immédiate. Mais l'esprit des fiançailles, c'est fondamental pour comprendre la foi et notre relation avec Dieu. L'apôtre Paul dit aux chrétiens qu'il les a fiancés à Christ. Et l'esprit des fiançailles est beaucoup plus grand que la consommation immédiate d'une relation. Parce que les fiançailles, ce sont des promesses. C'est une promesse de s'appartenir avec une retenue. Et c'est donc une attente de ce qui est mentionné au chapitre 2 du prophète Osée. Attente de justice, attente de loyauté, attente de compassion, attente de fidélité. Toutes ces choses doivent être connues, on peut dire, d'avance et éprouvées sans bénéfice immédiat. C'est quelque chose qui doit travailler dans le cœur, qui doit préparer. C'est une promesse qui est faite lors des fiançailles. Et dans ce temps de fiançailles, on éprouve, on exerce, on éprouve ses sentiments et on est prêt ensuite à en recevoir le bénéfice. L'esprit des fiançailles devrait être à nouveau mis en avant, en évidence, au sein de l'Église du Seigneur, parce que c'est là, bien sûr, on sait que tout n'est pas complètement parfait, mais quand même, c'est là qu'il y a une promesse de fidélité, d'accomplissement, d'épanouissement d'un vrai couple qui sera constitué lors du mariage. Parce qu'il y a eu ce temps d'attente, de promesse, de maîtrise de soi, qui fait que les choses promises ont mûri, ont pris vraiment forme dans le cœur de chacun et vont produire le bon fruit pour la relation véritable. Et le Seigneur donc se présente à nouveau comme étant le fiancé d'Israël. Et l'Église est toujours la fiancée de Christ. Les noces de l'agneau vont avoir lieu, mais c'est ce qui est devant nous. Son épouse s'est préparée. Et comme il est dit que le Seigneur s'est constitué un peuple pour de bonnes œuvres, eh bien, l'épouse est revêtue de fin lin. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc, en pratiquant la justice dans notre vie quotidienne, eh bien, nous nous préparons pour le véritable règne de justice que nous aurons en communion avec notre Seigneur qui s'est donné pour nous et qui nous a rachetés. Voilà quelques paroles pour commencer une année sur la base de la miséricorde du Seigneur, sur la base, bien sûr, de notre foi en sa miséricorde, de notre entrée dans l'obéissance, dans les œuvres justes. Et là, eh bien, nous formons et nous contribuons à former un véritable peuple pour le Seigneur qui va le glorifier au sein d'un monde qui, lui, par contre, s'est détourné totalement vers les idoles. Bien d'autres choses peuvent être dites et étudiées, et on le fera certainement dans les semaines qui viennent, que ce soit en études ou dans des messages, mais on peut retenir déjà cela. Restons sur la base de la miséricorde de Dieu, en ayant accepté qu'il y a eu un jugement sur notre vie de péché, notre vie de pécheur. Le Seigneur a jugé ces choses et il laisse place maintenant à sa miséricorde pour que nous puissions vivre devant lui. Amen.